Assure efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée, Suno Assurance, qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Le tiers des cancers serait imputable au tabac. Dans l'esprit du grand public, on associe volontiers la fumée de cigarette au cancer des voies respiratoires et du poumon en particulier. Mais le tabac, en modifiant les cellules, est responsable de nombreuses autres atteintes cancéreuses, de la vessie et du côlon, du sein et du col de l'utérus, de l'œsophage, du larynx, du rein, du sang, du foie. La liste est longue. Cause directe ou facteur favorisant, respirer la fumée de tabac, c'est inhaler des substances toxiques et l'entourage du fumeur est aussi atteint. Les risques augmentent avec le temps d'exposition. Plus on fume tôt, plus on fume longtemps, plus on risque d'être malade. Et fumer, c'est aujourd'hui la première cause évitable de cancer. Mais énumérer ces constats implacables sur les méfaits de cette pratique est une chose. Donner aux fumeurs les moyens efficaces d'arrêter en est une autre. Car l'accoutumance à la nicotine comme le plaisir de fumer crée une véritable addiction. Une accoutumance qui n'a rien de fortuite. L'industrie du tabac renouvelle toujours ses stratégies de communication et emploie des ingrédients attrayants pour maintenir les fumeurs dans cette dépendance qui peut donc se révéler fatale. Tabac et cancer au pluriel, un thème que nous abordons à l'occasion de la Semaine nationale contre le cancer. En studio avec nous, docteur Nicolas Bonnet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pharmacien spécialisé en santé publique et addictologie. Vous dirigez le réseau des établissements de santé pour la prévention des addictions, RESPAD également. Avec nous, Antoine Deutsch, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable projet au sein du département prévention de la direction santé publique et soins à l'Institut national du cancer. Nous serons tout à l'heure en ligne de Dakar avec le docteur Oumar Ba, pneumo-oncologue à l'hôpital général du Grand Diof et coordinateur du programme national de lutte contre le tabac au Sénégal. Et puis nous attendons le docteur Elisabeth Fabre qui sera avec nous tout à l'heure, on l'espère, hein, car il y a aujourd'hui des mouvements sociaux en France, notamment dans les transports. Si nous ne pouvons pas l'avoir avec nous directement au studio, eh bien on la joindra au téléphone. Elisabeth Fabre, docteur Elisabeth Fabre, qui est pneumologue-oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. En fin d'émission, nous retrouvons la chronique du docteur Catherine Solano, sexologue. Et puis bien sûr, toutes vos questions, vos témoignages, le numéro de Priorité Santé, c'est le 33 84 22 75 75. Dans cette émission, il va donc être question des risques du tabac sur les cancers. Hein. On le redit au pluriel et non, comme le grand public peut parfois le penser spécifiquement, celui du poumon. Antoine Deutsch, il y a des chiffres qui montrent que sur les 150 000 décès par cancer recensés chaque année, près du tiers, on parle quand même de 45 000 décès, sont directement attribuables à la cigarette.
Oui, tout à fait. Le tabac est de loin la première cause de mortalité par cancer et c'est le premier facteur de risque qui est évitable. Avec 45 000 décès, on en a plus de la moitié qui sont dus aux poumons et le reste est dû aux autres localisations de cancer. Et ça, c'est vraiment important.
Alors, on dit c'est la troisième cause de cancer, mais vous le dites, en fait, les autres sont beaucoup plus dispersés en chiffres, donc c'est la première cause réelle de cancer.
C'est la première cause de mortalité évitable de cancer. C'est-à-dire.
Et évitable, vraiment... évitable, mais tout le problème est justement là, docteur Bonnet, évitable, mais pas si facile de l'éviter une fois qu'on a mis le doigt dans l'engrenage, c'est bien ça. Même si on se dit c'est très mauvais pour ma santé, impossible, voire très difficile de s'arrêter tout seul.
Très compliqué en effet, effectivement, le tabac en général amène une dépendance très forte, quel que soit son mode de consommation, hein, que ça soit sous forme de cigarette, de chicha, de cigare, voilà, le tabac amène à une dépendance très forte qui est liée à la nicotine. Et la survenue du cancer est finalement tardive par rapport à l'entrée dans le tabagisme. On va attendre 15 à 20 ans avant d'avoir la survenue d'un cancer, des fois même plus. Et donc du coup, on a un décalage entre la compréhension finalement de la maladie qui va survenir, qui est quasiment inéluctable, hein, quand on fume. On se rappelle que la survenue du cancer, c'est quasiment toucher un fumeur sur deux, qu'elle survient, donc après 20 ans de tabagisme. Sauf que, comme il y a un délai entre le début de la consommation et la survenue du cancer, on a une entrée dans la consommation qui se fait dans de bonnes conditions où le fumeur n'a pas du tout l'impression qu'il a un impact sur sa santé.
Mais est-ce qu'on peut penser encore aujourd'hui qu'un fumeur n'a pas conscience du danger quand il allume sa première cigarette?
C'est la connaissance du risque. Le fumeur a la connaissance du risque, mais la connaissance, on le sait depuis longtemps en prévention, elle n'est pas suffisante pour changer un comportement. C'est pas parce que vous avez connaissance d'un risque que pour le coup vous allez changer votre comportement. Votre comportement, il va changer pour d'autres raisons, d'autres facteurs personnels ou extérieurs.
Alors, en ligne avec nous, docteur Elisabeth Fabre. Bonjour, docteur Fabre.
Bonjour.
Alors, justement, on parle aujourd'hui des cancers au pluriel. On va s'arrêter sur cette anatomie. Quelles sont les localisations du cancer qui peuvent être imputées au tabac? On va bien sûr parler d'abord de ces cancers en dehors de celui auquel on pense en premier lieu, à savoir le poumon.
Oui, bien sûr. Effectivement, on a tous en tête la corrélation entre le tabagisme actif ou passif et puis le cancer du poumon. Mais il faut aussi avoir en tête que beaucoup d'autres cancers sont liés au tabac, en particulier les cancers des voies aériennes supérieures, c'est-à-dire les cancers ORL, mais aussi, ce qu'on a moins en tête, certains cancers digestifs, le cancer du pancréas, le cancer de la vessie, du rein, du foie, de l'estomac, du col de l'utérus. Enfin, vraiment, il faut avoir en tête que le tabac entraîne des altérations génétiques, donc au niveau des cellules, et où qu'elles soient. Donc c'est vraiment un enjeu majeur de société.
Alors justement, cancer de la vessie par exemple, un cancer assez peu connu, docteur Fa, pourtant c'est le cinquième hein, par la fréquence, deuxième cancer urologique après celui de la prostate. Pourquoi finalement, on va dire, certains cancers sont beaucoup moins connus que d'autres, même si finalement les risques sont énormes?
Alors c'est probablement par manque d'informations. Et puis aussi, il y a certainement l'envie de ne pas savoir. Le tabac, c'est quand même une addiction et c'est un peu mettre la poussière sous le tapis parfois. Oui, certainement.
Alors, on a parlé de ces différents cancers, ça ne va pas nous empêcher de parler du cancer le plus meurtrier, c'est celui du poumon. C'est aussi votre spécialité, docteur Elisabeth Fabre. Les chiffres, là, sont totalement terrifiants.
Oui, donc moi, effectivement, je suis responsable d'un service d'oncologie thoracique à Paris et le cancer du poumon sont encore liés à un pronostic très sombre. Alors très sombre parce que, d'abord, le diagnostic est tardif. Parce que bien souvent, ce sont des fumeurs, il va y avoir des symptômes, une toux, un essoufflement, mais qui évoluent de façon très insidieuse et qui sont mis d'abord sur le compte de la pathologie pulmonaire ancienne. Et en fait, le diagnostic de cancer du poumon est établi avec un retard. Dans 60% des cas, le cancer est déjà métastatique ou trop avancé pour pouvoir relever d'un traitement chirurgical.
Docteur Elisabeth Fabre, vous allez rester en ligne. Je m'adresse maintenant au docteur Nicolas Bonnet. Quand on parle du cancer et du tabac, en fait, on parle de deux mots, hein, deux mots différents, une maladie grave et une addiction.
On parle de deux choses différentes, mais qui sont, encore une fois, intimement liées. Alors, c'est vraiment le mode de consommation du tabac actuel hein, qui est à l'origine de tous ces cancers, en tout cas qui a un impact très fort sur ces cancers-là, c'est-à-dire le tabac fumé. On voit bien que selon le mode de consommation du tabac, on va aussi avoir des cancers qui vont changer de localisation et changer de fréquence. Par exemple, le tabac à chiquet ou le tabac prisé va amener des cancers de la bouche, certes, mais du coup, on va éviter l'apparition de cancers du poumon. Donc il y a certains pays, notamment, qui privilégient ce mode de consommation du tabac pour limiter du coup l'apparition de cancers du poumon. Et ça fonctionne dans ce cadre-là.
Dans l'information, dans la prévention?
Alors c'est ce qu'on appelle les stratégies pour réduire les risques hein, liés au tabagisme. Mais effectivement, de quitter la voie pulmonaire, de quitter le tabac fumé pour le tabac à chiquet ou prisé, on va toujours avoir des cancers, certes de la bouche, mais moins fréquents. Et du coup, on va quitter cette mortalité attribuée au cancer du poumon.
Alors, une addiction, une dépendance particulièrement puissante, parce qu'elle touche plusieurs niveaux de la personne. On peut même quasiment dire de la personnalité. Il y a le physique, il y a le psychologique, et puis bien sûr, il y a le regard des autres. Est-ce qu'on réussit à changer, on parlait justement de ces campagnes, est-ce qu'on réussit à changer ce regard sur le tabac, retirer l'image, hein, tout le monde a ça, enfin quand on a un certain âge, du cow-boy en pleine nature qui respire à plein poumon, ce cow-boy en question, d'ailleurs la personne était plus tard avait eu sa santé altérée par l'usage du tabac.
Effectivement, enfin, ce qu'on appelle le paradoxe du cow-boy, ce que vous rappelez, c'est-à-dire ce cow-boy fumeur en même temps en pleine santé, et puis surtout très détendu, hein, très voilà, enfin le qui du coup nous renvoie à cette image anxiolytique du tabagisme. Aujourd'hui, je crois que c'est une image qui est quand même en perte de vitesse. Hein, on l'a moins, elle est moins présente. Il y a un changement de regard sur le tabagisme, il y a une dénormalisation du tabac qui s'installe, et c'est une bonne chose. On le voit dans la fréquence de consommation des jeunes, notamment à 17 ans, là qui les derniers chiffres laissent apparaître une continuité de la diminution du tabagisme à 17 ans, et c'est une très bonne chose qu'il faut qu'on encourage. Ça également c'est appuyé par les paquets notes qui sont arrivés également maintenant il y a un peu plus d'un an et qui permettent du coup d'avoir aussi de contribuer à cette dénormalisation et puis l'augmentation du prix du tabagisme qui également restreint l'accès à ce produit.
Antoine Deux, ça veut dire que dans les cigarettes, dans les cigares, le tabac à mâcher, est-ce qu'on retrouve des ingrédients, des éléments, on a parlé tout à l'heure de l'étendue hein, sur le corps, des potentialités de danger, de cancer. Est-ce qu'il y a des produits, des composantes objectivement carcinogènes ou cancérigènes?
Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le tabac et donc sa fumée, c'est une véritable usine chimique. C'est-à-dire vraiment, quand on inhale, c'est plus de 70 cancérigènes et c'est plus de 7000 substances toxiques qu'on a. Donc, c'est vraiment comme si on inhale de nombreux toxiques, dont 70 connus, qui sont le benzène, qui sont le goudron, il y a de l'arsenic, il y a même du polonium. Le polonium, c'est quand même une substance très nocive. Et voilà, il y en a 70 comme ça.
Alors, c'est pas le cas pour tout le monde, mais on voit certains paradoxes. On voit des personnes qui font attention aux cosmétiques qu'elles emploient pour qu'il n'y ait pas de perturbateurs. À côté de ça, qui fument, voire même qui fument, j'ai vu ça récemment, du tabac bio. Mais on marche sur la tête avec ce que vous venez de dire. On est en train de fumer une petite usine chimique et en même temps, on fait attention à des microgrammes de choses qu'on se met sur la peau. Alors que là, on l'inhale, c'est comme si on l'ingérait directement puisque ça touche aussi les parois digestives.
Ça c'est déjà une des grandes difficultés aujourd'hui, c'est qu'il y a de nombreux messages de prévention non quantifiés. Et effectivement, quand on regarde le tabac avec le poids qu'il a dans les cancers et effectivement le nombre de substances toxiques, c'est pas une réduction peut-être de un ou deux ou de quelques substances qui va retirer ces 70 cancérogènes présents dans la fumée du tabac.
Alors vous restez avec nous, hein, tout de suite on va donner la parole aux auditeurs de Priorité Santé.
Priorité Santé sur RFI.
Et cet auditeur, c'est Jimmy, il est en ligne du Congo-Brazzaville, de la ville de Brazza. Bonjour Jimmy.
Oui, bonjour.
On vous écoute, on écoute votre question.
Oui, donc ma question était de savoir, en fait, tout ce que le tabac peut donner le cancer des poumons. On sait qu'il y a plus de chances que ça dans le cancer des poumons. Mais quant au cancer de la bouche, que constitue le tabac? Est-ce un facteur de risque ou un facteur déclenchant?
Alors c'est tout de la difficulté, hein. C'est complexe de savoir si le cancer est directement dû ou est-ce que c'est un élément, un facteur. Comment justement distinguer les deux, Antoine Deutsch?
Déjà, bien évidemment, le cancer est par essence une pathologie multifactorielle. Donc il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer l'apparition d'un cancer, mais je rappelle que le tabac est de loin la première cause de cancer. Et pour la bouche, on sait que par exemple l'alcool peut être également un facteur de risque, mais le tabac seul est responsable de 60% des cancers de la bouche.
Donc facteur absolument. Vous avez une autre question, Jimmy?
Oui, ma deuxième question, c'était de savoir concernant l'entourage de fumeurs. Moi, j'ai un parent qui a fumé pendant quasiment plus de 30 ans. Donc, nous, sa famille... quels sont les risques que nous avons courus en inhalant la fumée qui sortait de sa bouche?
Alors Antoine Deutsch, je me retourne encore une nouvelle fois vers vous. On appelle ça le tabagisme passif. On a des données aujourd'hui, hein. C'est pas simplement la personne qui fume qui se met en danger, mais elle a de véritables responsabilités sur son entourage.
Effectivement, le tabagisme passif a un impact sur la santé de l'entourage, donc des fumeurs. C'est pas tellement le nombre de cancers qui est imputable, ça donne le cancer du poumon. On recense en France, par exemple, 150 cancers par an attribuables au tabagisme passif. Mais là, c'est beaucoup plus des maladies cardiovasculaires qui sont impactées, dues à l'intoxication massive de monoxyde de carbone, et donc des risques d'infarctus et de maladies cardiovasculaires. Pour le poumon, c'est quand même une exposition à long terme. Donc c'est pas un risque de cancer majeur.
Mais de toute façon, c'est mauvais pour la santé de l'entourage, c'est ce qu'on comprend bien. Voilà Jimmy pour ces réponses. Merci beaucoup de cet appel de Brazzaville. On va maintenant prendre en ligne un autre auditeur, c'est Moutari. Il est au Niger, à Niamey. Bonjour Moutari.
Bonjour.
On vous écoute.
Ouais, moi, ma question est de savoir, est-ce que si après avoir fumé des chichas pendant au moins un an, elle peut laisser des séquelles.
Et à quelle fréquence vous avez fumé la chicha, Moutari?
Oui, pendant moins d'une année.
Et plusieurs fois par jour?
Oui, à peu près 3 fois par jour.
Et maintenant, vous avez cessé cette pratique?
Effectivement.
Docteur Nicolas Bonnet, vous disiez tout à l'heure différentes façons de consommer du tabac. Il n'y a pas que la cigarette, on peut le mâcher, on peut donc ce tabac froid, la chicha. Il y a des différences, par exemple, en termes d'addiction et en termes de conséquences sur la santé?
Il y a des différences de perception du risque lié aux différents modes de consommation. La chicha, souvent, a une image plutôt positive auprès des consommateurs. Cette fumée froide qui est absorbée, en tout cas douce, du coup, qui passe dans une solution, dans de l'eau, souvent, du coup, on a l'impression que la fumée est filtrée également de tous ces produits toxiques. Et donc, le consommateur, derrière, a vraiment cette impression d'avoir consommé un produit lié au tabac, mais finalement, beaucoup moins toxique que la cigarette. Or, il en est totalement inverse. C'est-à-dire que la fumée de chicha contient également de nombreux cancérigènes, contient beaucoup plus d'un gaz qui s'appelle le monoxyde de carbone qu'on retrouve dans la cigarette. Elle en contient 3-4 fois plus. Hein. Une séance de chicha, c'est l'équivalent d'une 60aine de cigarettes en monoxyde de carbone. Et elle contient aussi, bien sûr, de la nicotine. Nicotine qui est à l'origine, évidemment, de la dépendance.
Derrière la question de Moutari, il y a de savoir, on fume moins d'un an, est-ce qu'on peut avoir des séquelles, des risques concrets pour la santé? C'est un petit peu ça, sa question, docteur Nicolas Bonnet.
Deux choses. On dit que il y a toute consommation de tabac amène un risque sur la santé, mais également on dit surtout qu'il y a toujours des bénéfices à arrêter et que les bénéfices sont bien plus importants quand on arrête avant 30 ans. Donc alors, on peut même dire d'ailleurs, quelle que soit la consommation de tabac qu'on a eue avant 30 ans, si vous arrêtez avant 30 ans, vous avez quasiment toutes les chances de retrouver une espérance de vie d'un non-fumeur très rapidement. Donc il y a vraiment toutes les raisons de dire oui, faut arrêter de fumer le tabac dans toutes ses formes, faut arrêter le plus tôt possible. Et un an de consommation, si l'arrêt maintenant est constitué, il n'y a pas de reprise de consommation, il faut rassurer du coup Moutari en lui disant réellement qu'il il n'aura pas de conséquences de son tabagisme.
Là, vous avez arrêté aujourd'hui, Moutari. Vous êtes décidé à ne pas reprendre justement la consommation de tabac par la chicha?
Oui, j'ai arrêté depuis.
Bon, bah écoutez, vous avez entendu le docteur Bonnet, on vous encourage, c'est plutôt bien. Un an, maintenant on peut s'en passer, hein, tout le reste de sa vie, ça va être beaucoup moins difficile. Justement, il y a cette dimension d'arrêter, on peut le dire aujourd'hui, en écoutant des informations sur la santé, sur les risques, et puis aussi mettre en avant, hein, docteur Nicolas Bonnet, les bonnes raisons pour arrêter. Bien sûr, la santé, c'est la meilleure raison du monde, mais aussi pour soi, pour des choses très positives par rapport au regard, à l'image, justement, par rapport à tout ce qui a été véhiculé avant sur casser cette image du fumeur positif.
Il faut sortir en tout cas de cette intégration du tabagisme dans tous nos espaces de vie. Tout à l'heure, on parlait par exemple du tabagisme passif. C'est également une des raisons fortes pour pouvoir arrêter. C'est pour ses enfants, pour sa famille, pour ses proches. Alors, pour ses proches, ça veut dire pour pouvoir rester en vie le plus longtemps possible pour ses proches, mais c'est également aussi pour pas avoir un impact de son propre tabagisme sur ses proches ou ses enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment investir tous les lieux de la société et notamment le domicile privé aussi. Donc là, ça dépend de la responsabilité vraiment citoyenne et faire de tous ces lieux des lieux qui soient totalement sans fumeur, enfin, sans tabac sous aucune forme.
Puisque dans beaucoup de pays, déjà, la loi interdit dans les lieux publics. Donc maintenant, s'intéresser à ce qui se passe à l'intérieur des maisons. Vous restez avec nous, hein, toujours le docteur Elisabeth Fabre qui est en ligne avec nous. Docteur Nicolas Bonnet et Antoine Deux, je vous reste avec nous, hein, dans 3 minutes. Juste après le point de l'actualité, on va se retrouver toujours pour parler du tabac, de l'impact du tabac et de sa responsabilité sur les différents cancers. Vous pouvez continuer à nous appeler le numéro de l'émission, le 33 84 22 75 75. À tout à l'heure.
Musique.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée au cancer au pluriel et au tabac, toujours en compagnie du docteur Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique et addictologie, d'Antoine Deutsch, responsable projet au sein du département prévention de la direction santé publique et soins à l'Institut National du Cancer, et avec nous en ligne, docteur Elisabeth Fabre, pneumologue oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Docteur Fabre, comment le tabac agit-il sur l'organisme? Je m'explique. Comment est-ce qu'il agit sur les cellules pour devenir cancérigène?
Donc, il faut avoir en tête que le cancer, c'est une maladie génétique. C'est-à-dire non pas dans l'idée qu'on a parfois d'une maladie qui se transmet de génération en génération, mais des anomalies génétiques, c'est-à-dire des blessures de l'ADN, qui se constituent au cours du temps et au fil de notre existence, sous l'effet de différents facteurs de risque. On l'a vu, le tabac, le soleil, la façon dont on mange, etc. Donc il va y avoir ces blessures de l'ADN qu'on va ou pas réparer au fil du temps, parce qu'on a un système enzymatique qui permet en partie de réparer ces blessures. Et à un moment donné, il y a trop d'altérations génétiques accumulées au fil du temps. Par exemple, sous l'effet du tabac, la cellule devient anormale, c'est-à-dire avec une prolifération anormale et des caractéristiques très différentes des cellules normales.
Alors, vous êtes oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Vous traitez donc des personnes atteintes de cancer. Qu'est-ce que vous leur dites quand elles arrivent? Le diagnostic est posé, ces personnes continuent de fumer. C'est quoi le message que vous leur faites passer pour dire maintenant, il serait vraiment préférable, on n'est pas dans une dimension moralisatrice, mais dans une dimension de santé, maintenant il faut arrêter. Comment vous faites?
Alors, je dirais que quel que soit le stade auquel la maladie est découverte, il y a un enjeu majeur à arrêter le tabac. C'est-à-dire que si le cancer est diagnostiqué au stade précoce et qu'il y a le projet d'une chirurgie, le sevrage tabagique est indispensable. C'est-à-dire, même pour aller plus loin, un chirurgien refusera d'opérer un patient qui n'a pas arrêté de fumer depuis au moins 3 semaines. Pourquoi ? Parce que ça va multiplier les risques de complications post-opératoires, infectieuses, troubles du rythme cardiaque et donc une morbide mortalité post-opératoire. Donc c'est important pour l'idée d'une intervention chirurgicale. Mais c'est aussi important à un stade avancé de la maladie où il n'y a pas de guérison possible. On sait que le tabac va de toute façon, même sous chimiothérapie, augmenter les risques d'infection, mais aussi parfois interagir avec le métabolisme des traitements anticancéreux. Donc à tous les stades de la maladie, il y a un intérêt à arrêter de fumer. Et c'est ça vraiment le message qu'on essaye de faire passer en lien étroit avec nos collègues addictologues.
Merci beaucoup, docteur Elisabeth Fabre, pneumologue, oncologue à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Merci d'avoir répondu aux questions de Priorité Santé. Justement, vous disiez le mot addictologue, c'est ce que vous êtes aussi, docteur Nicolas Bonnet. On a parlé là des personnes malades à qui justement on essaye de donner des pistes et des conseils, et même plus pour arrêter de fumer. Vous, dans votre consultation, voyez beaucoup de jeunes consommateurs du service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Vous observez, il n'y a pas d'âge pour devenir dépendant.
La consommation de tabac commence tôt. Voilà, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que les gens qui sont dépendants à une drogue, quelle qu'elle soit, notamment le tabagisme, ils ont commencé leur consommation de tabac avant 18 ans. On ne commence pas une drogue après 18 ans. Donc, du coup, effectivement, on retrouve en consultation jeunes consommateurs des jeunes fumeurs qui rentrent dans le tabagisme, qui sont encore dans cette période un petit peu de lune de miel, avec cette sensation de pouvoir consommer quand on le souhaite, de pouvoir s'arrêter quand on le souhaite, etc. Avec cette sensation de maîtriser l'usage. Or, on sait que la dépendance est déjà installée, que les lésions commencent déjà également à faire leur travail, les lésions sur l'ADN, comme ça a été expliqué, et que c'est cette consommation qui va durer dans le temps, qui ensuite déclenchera 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, des maladies gravissimes. Donc oui, ces jeunes, on les voit et on travaille avec eux tout de suite, dès le début, pour un arrêt de la consommation de tabac, avec des résultats très importants, mais c'est vrai qu'il faut une prise de conscience très rapide et très forte chez ces jeunes pour qu'ils arrêtent leur consommation et qui du coup retrouvent une qualité de vie bien supérieure sans tabagisme.
Est-ce que vous voyez par exemple, docteur Nicolas Bonnet, des jeunes, on va dire 21, 22 ans, qui viennent vous voir et qui disent « je voudrais arrêter de fumer, j'y arrive pas ».
De plus en plus, parce qu'effectivement, on a de plus en plus de messages aussi de prévention maintenant qui incitent du coup les jeunes, les moins de 25 ans, à réfléchir sur la consommation de tabac et donc du coup être orientés vers des centres, vers des consultations jeunes consommateurs où ils peuvent arrêter de fumer. Alors on leur propose initialement des entretiens motivationnels, ce qui est une technique d'entretien qui a des effets extrêmement intéressants pour changer de mode de consommation, changer de comportement. Donc du coup, une première étape qui est sans traitement pharmacologique. Et puis si on n'y arrive pas, on va y associer du coup des traitements pharmacologiques à base de nicotine, des comprimés à sucer, des gommes, des substituts nicotiniques par patch. Et puis si également c'est pas toujours suffisant, on va pouvoir également y associer la cigarette électronique, le vaporisateur personnel avec de la nicotine pour là du coup passer sur une étape de réduction des risques où on quitte le tabac fumé, on passe sur la nicotine vaporisée et puis avec une association avec des substituts nicotiniques progressivement, on arrêtera la cigarette électronique, il ne nous restera que les substituts nicotiniques qu'on arrêtera également progressivement. Donc tout ça, vous voyez, ça prend quelques mois voire un peu plus d'un an, deux ans, mais en tout cas on a la certitude derrière parce que les résultats de la science nous le prouvent, on a la certitude que les jeunes, du coup, arrêtent de fumer.
Oui, mais dans ces cas-là, le suivi est très important.
La conviction dans les soins, l'adhérence, le fait de comprendre qu'on a vraiment un bénéfice à arrêter. Et si vous arrivez dès le début, dès les premiers entretiens, à faire comprendre à la personne qu'elle a un bénéfice dans son changement, elle continuera tout seule sa progression finalement vers l'arrêt de la consommation.
Vous restez avec nous, on va partir tout de suite pour Dakar.
Priorité santé sur RFI.
Dakar, où l'on vous retrouve, docteur Oumar Ba, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pneumo-oncologue, coordinateur du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Docteur Ba, est-ce que vous disposez de chiffres sur les cancers liés au tabac dans votre pays?
Bonjour, chers collègues, bonjour les auditeurs de RFI. Effectivement, au Sénégal, nous disposons de chiffres de cancers liés au tabac. Si je me réfère à nos études sur le registre des cancers au Sénégal, nous avons pratiquement 32% des cancers qui sont liés au tabac, notamment les cancers du poumon, les cancers ORL, c'est-à-dire le pharynx, la gorge classiquement. Donc c'est les cancers que nous retrouvons essentiellement qui viennent en troisième et en quatrième position de tous les cancers que nous avons recensés au cours des dernières années de recrutement.
Docteur Ba, je ne sais pas si vous parlez au haut-parleur de votre téléphone, mais je vous conseillerais peut-être de parler davantage dans l'appareil, comme on dit, parce qu'il y a une espèce d'écho qui altère la réception de ce que vous nous dites. En tout cas, est-ce que d'après vous, le public sénégalais est suffisamment informé des liens concrets qui existent entre le tabac et le cancer, et pas seulement justement pour le cancer du poumon?
Oui, de façon générale, depuis plus de 10 ans, les spécialistes, les praticiens parlent régulièrement dans les radios, partout, pour sensibiliser le public sénégalais sur les risques qui sont liés au tabac. En plus de cela, donc nous avons fait il y a deux ans de cela, en 2015, nous avons fait une enquête sur la consommation du tabagisme chez les adultes, plus la consommation chez les jeunes. Et on a vu très rapidement qu'il y a pratiquement plus de 12% de la population qui sont des adultes fumeurs. Et on a vu aussi que les jeunes sont des fumeurs. Et ce qui a motivé donc au plus haut niveau donc la mise en place d'un programme national de lutte contre le tabac qui prend en compte en réalité cette préoccupation pour sensibiliser davantage les populations et aussi permettre, comme le disait tout à l'heure le docteur Nicolas, à certains qui veulent arrêter de fumer, donc de sortir des problèmes du tabac.
Avec justement l'information des consommateurs, ça nous renvoie vers une question Facebook qu'on a reçue à Priorité Santé, justement d'un ressortissant sénégalais, c'était l'ADJI. Avec des fausses idées, préjugés, c'est ce qu'on va voir puisqu'il nous dit « J'ai entendu dire que si un fumeur arrête de fumer d'un seul coup après 10 ans, il peut avoir une maladie cardiaque ou cancéreuse. On voit dans sa question que c'est un petit peu le processus inverse. Il croit que c'est l'arrêt du tabac qui provoque la maladie et non la consommation du tabac. Docteur Oumarba, est-ce que ce genre de questions, on vous les pose parfois ?
Oui, tout à fait. On pose beaucoup de questions parce que les gens, souvent, ils ont du mal à aborder de prendre la décision d'arrêter de fumer en réalité. Je pense que ça doit être ça. Et c'est pour ça que nous, on a mis en place ce qu'on appelle un numéro vert. Après avoir mis en place ce qu'on appelle, nous avons aussi changé les paquets de cigarettes pour décourager les jeunes, décourager les personnes qui veulent fumer. Mais nous avons mis en place un numéro vert pour que les gens appellent. Et souvent, ces questions, ce genre de questions reviennent. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il faut arrêter à tout moment. Mais il faut la motivation. Il faudrait qu'il y ait la motivation de celui qui veut arrêter. Et il n'est jamais trop tard pour arrêter de fumer. Donc, c'est pas le fait d'arrêter de fumer qui entraîne des maladies. Mais c'est le fait de continuer à fumer, justement, qui entraîne les maladies.
Docteur Ba, est-ce que, on a parlé justement de cette législation anti-tabac, est-ce qu'il y a aussi des consultations en addictologie? Et puis, on a parlé tout à l'heure des tous les moyens de sevrage anti-tabac. Est-ce que ça existe aussi au Sénégal et surtout, est-ce que c'est accessible au grand public?
Il y a quelques centres de sevrage, notamment le centre psychiatrique de Fan fait le sevrage. Il y a aussi l'hôpital principal et quelques centres, notamment la clinique de pneumologie de l'hôpital de Fan, l'hôpital général Grand Yop, où les gens font des offres de sevrage. Mais ce qu'il faut dire, ce qui est vrai, les produits sont substituts nicotiniques sont hors de prix. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore accessibles à tout le monde. C'est un véritable frein à notre activité et pour qu'on puisse réellement prendre en charge les personnes qui veulent arrêter.
Merci beaucoup, docteur Oumarba. J'aurais bien poursuivi cet échange. Hélas, la ligne téléphonique est en train de se dégrader sensiblement. Docteur Ba, vous êtes pneumo-oncologue, coordinateur du programme national de lutte contre le tabac du Sénégal. Docteur Bonnet, hein, on l'a entendu au Sénégal, on le sait bien sûr en France, dans beaucoup de pays d'Europe et de pays occidentaux, des campagnes, des politiques anti-tabac engagées. Pourtant, d'après l'OMS, hein, c'est une étude de l'année dernière, janvier 2017, le nombre de cancers liés au tabac pourrait augmenter d'un tiers d'ici 2030. Ça veut dire que la santé de l'homme et de la femme est en train de payer son dû aux fumeurs d'antan ou c'est les nouveaux fumeurs entrants qui vont provoquer cette véritable hécatombe ?
Les deux, on voit que l'impact du tabagisme sur l'apparition du cancer, donc ça prend 10, 15, 20 ans, 30 ans avant la survenue. Donc effectivement, il y a un décalage entre du coup la réduction de la consommation en population générale et la réduction du coût des cancers, ou inversement la consommation et l'apparition de cancer. Et puis également aussi, faut se le rappeler, face à nous, des cigarettiers qui sont extrêmement puissants en termes de moyens, de ressources, de marketing, et qui inondent de nombreux pays, encore une fois, en paquets de cigarettes, en tabac. On l'a vu encore aussi en Europe, avec d'autres formes de tabac fumé, puisque Philippe Maurice l'a fait la une de la presse en France dans une tentative du coup de séduction de nouveaux clients avec d'autres modes de consommation du tabac. Oui, donc on a face à nous un ennemi qui est très puissant, qui a des ressources très importantes, notamment financières, et donc du coup qui recrute de très nombreux fumeurs à travers le monde. Il y a un point sur lequel je voudrais juste revenir, c'est vraiment l'importance, enfin les effets indésirables qui sont surestimés par la population en général et par les professionnels de santé aussi trop souvent de l'arrêt du tabagisme. On a vraiment trop souvent encore l'impression dans de nombreuses bouches que arrêter de fumer, ça va être trop difficile, c'est pas le bon moment, il y a une maladie associée, mais je suis déprimé, mais j'ai un cancer, etc., etc. On l'a rappelé, mais je tenais vraiment à le redire une dernière fois, c'est l'arrêt du tabac, ça doit être une nécessité à tous les moments, et il n'y a jamais de moment qui n'est pas suffisant en termes d'importance pour arrêter de fumer. Vraiment, il faut vraiment que le professionnel de santé maintenant sorte de la question, voulez-vous arrêter de fumer? Mais voilà comment je peux vous aider pour arrêter de fumer et qu'on soit directement une situation d'action et plus de questionnement.
Le problème alors c'est quoi? C'est un problème de formation encore aujourd'hui? Ou un problème de perception dans la société.
Les deux, mais la formation, c'est un point très important que vous soulevez. La formation initiale dans les études de médecine ou de pharmacie est encore beaucoup trop insuffisante. Pareil chez les infirmières, dans les études de santé en général, beaucoup trop insuffisante sur le tabagisme et sur les addictions en général. On devrait tous savoir, professionnels de santé, au moins 3 heures sur le tabagisme pendant nos études. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est plutôt réduit à 30 minutes qu'à 3 heures.
Antoine Deutsch, est-ce que l'on peut faire une distinction hommes-femmes pour les cancers liés au tabac? Est-ce qu'il y a davantage, bien sûr, tous les cancers gynécologiques? On le comprend, les femmes sont concernées. On l'a dit, cancer du sein, cancer du col de l'utérus, des facteurs par l'usage de tabac. Mais malgré tout, aujourd'hui, si on s'arrête à un cancer qui jusque-là était très masculin, c'est le cancer du poumon, les choses évoluent.
Les choses évoluent, malheureusement, on a envie de dire, c'est que on voit un phénomène apparaître, c'est-à-dire qu'il y a eu la montée de la consommation de tabac chez les femmes dans les années 70, alors que la consommation chez les hommes datait déjà des années 40. Et on voit donc une diminution importante de la consommation chez les hommes, avec du coup, avec un temps de latence, mais une diminution du nombre de cancers chez les hommes, notamment du poumon. Et ce qu'on voit apparaître, et quand on étudie la fréquence des cancers en France, c'est la montée du nombre de cancers du poumon chez les femmes, liée tout simplement à l'augmentation du tabagisme chez les femmes.
Docteur Nicolas Bonnet, c'est aussi quelque chose sur lequel vous travaillez, par exemple, en addictologie. Comment est-ce que vous des différentes manières peut-être de convaincre tel ou tel public. Tout à l'heure, on parlait des jeunes, on parle des personnes déjà malades qu'il faut convaincre. Est-ce qu'on parle de la même façon de ces cancers aux hommes et aux femmes, par exemple?
On va avoir un discours effectivement qui va s'adapter à la personne qu'on a en face de soi, en fonction de son âge, en fonction de sa vie, de sa famille, de son risque professionnel, et puis également aussi en fonction évidemment de son sexe. La femme va avoir souvent d'autres motivations pour être assumée. Par exemple, le désir de grossesse, c'est une motivation très importante également pour réduire sa consommation. On va être assumée parce qu'on sait que ça a un impact très fort sur la grossesse. Ça peut amener à des accouchements prématurés. Ça va augmenter le risque de mort subite du nourrisson ensuite. Donc il y a vraiment un impact fort. Donc du coup, ça, c'est un argument qui peut vraiment, pour lequel la femme peut être très sensible dans son arrêt également du tabagisme. Et puis rappeler, tout à l'heure vous l'avez dit, mais il n'y a pas suffisamment d'informations sur le lien entre la survenue de certains cancers et le tabagisme et le cancer du sein, par exemple. On sait aujourd'hui qu'il y a un lien très fort entre la consommation de tabac et l'apparition du cancer du sein. Malheureusement, c'est souvent une information qui n'est pas suffisamment diffusée, pas suffisamment connue des femmes, et donc du coup, qui n'est pas suffisamment exploitée par les professionnels de santé.
Alors, difficulté pour arrêter de fumer, ce témoignage tout de suite, c'est celui de Roger, il est au Tchad, à N'Djamena. Bonjour Roger.
Bonjour.
On vous écoute Roger.
Bon, moi j'ai commencé à fumer depuis 2004. Et arrivé en 2016, j'ai essayé de laisser, mais arrivé à un mois et demi, 2 mois. Je n'arrive pas à cesser carrément. Donc j'ai depuis jusqu'aujourd'hui, je continue toujours à fumer.
Alors, vous n'arrivez pas à arrêter. Vous avez quelle consommation quotidienne?
Au moins un paquet par jour. Un paquet plus.
Et quand vous avez arrêté de fumer, vous vous êtes fait aider en prenant quelque chose, des moyens de substitution?
Bon, non. J'ai essayé seulement d'arrêter de fumer. Mais surtout, mon problème est que quand je bois seulement, je peux pas. Il faut absolument que je fume.
Quand vous buvez de l'alcool?
Oui.
Voilà, la consommation associée, hein, c'est souvent quelque chose qu'on remarque, docteur Nicolas Bonnet. Certaines habitudes en appellent d'autres.
La consommation d'alcool est souvent associée à la consommation de tabac. Alors il y a ce qu'on appelle la dépendance environnementale en partie, c'est-à-dire qu'on associe la consommation d'alcool ou de café aussi par exemple avec la consommation de tabac. Et puis également aussi une raison pharmacologique, le tabac, la nicotine, c'est un psychostimulant. Donc en fumant des cigarettes pendant qu'on boit de l'alcool, on va compenser les effets sédatifs de l'alcool. Donc du coup, on va pouvoir boire davantage d'alcool sans finalement se retrouver endormi lié aux effets encore une fois de l'alcool. Donc le tabac compense, de même qu'on pourrait prendre des boissons énergisantes avec la consommation d'alcool. c'est exactement le même raisonnement. C'est juste l'effet psychostimulant d'une drogue qui permet de compenser les effets sédatifs de l'autre drogue. Juste sur la substitution nicotinique dont vous parliez, et peut-être dont Roger aurait besoin, c'est véritablement l'idée de se dire qu'il faut prendre le maximum possible de substitution nicotinique quand on est dépendant, donc, et avoir accès, certes, avoir des traitements qui soient remboursés, et en prendre le plus possible, et se dire que finalement, une cigarette, c'est au moins 1 mg de nicotine. Donc si vous fumez un paquet de cigarettes par jour, il vous faut au moins 20-30 mg de nicotine par jour.
Et pourtant, le docteur Ball disait tout à l'heure, hein, c'est hors de prix en Afrique subsaharienne, c'est véritablement un problème. Merci en tout cas, Roger, pour cet appel. On va prendre un tout dernier auditeur en ligne. Il nous appelle du Mali, de Bougouni, c'est Bahir. Bonjour Bahir.
Bonjour RFI.
On vous écoute Bahir.
Moi, j'ai commencé à fumer à l'âge de 12 ans. Actuellement, j'ai 37 ans. J'ai arrêté la cigarette, ça fait à peine 16 jours aujourd'hui.
Bravo.
Et au deuxième jour de l'arrêt, j'ai senti des douleurs énormes au niveau de la poitrine. Pour moi, j'allais passer. J'allais passer, pour moi, j'allais mourir.
Et aujourd'hui, vous vous sentez comment?
La douleur, vraiment, s'est atténuée beaucoup. Je peux dire jusqu'à 80-90%.
Vous avez moins mal. Est-ce que vous êtes toujours déterminé à laisser tomber, à continuer à persévérer?
Je ne crois pas qu'il y ait une chose qui peut me faire reprendre la cigarette actuellement.
Vous n'avez pas envie de reprendre?
Même pas. Même pas l'envie même de fumer une cigarette.
C'est déjà une très bonne chose. Docteur Nicolas Bonnet, cette sensation d'oppression dont parle Bahir aux premières heures de l'arrêt, 25 ans de consommation, c'est pas simple pour le corps de se passer d'autant de produits chimiques?
L'arrêt, alors, l'arrêt brutal d'une consommation peut effectivement amener à des différents signes de sevrage, et ces douleurs peuvent en faire partie. Elles sont aussi majorées par l'angoisse de l'absence de la consommation. Donc plus on arrête comme ça brutalement, plus on a une sensation d'angoisse qui est liée au manque, hein, qui est aussi l'appréhension du manque, hein, cette idée qu'on n'aura plus de produit avec soi qui pourra du coup compenser ses besoins. Et ce manque va générer une forte angoisse qui va du coup aussi pouvoir générer ce type de douleur. Ce qu'on peut surtout vraiment féliciter Bahir pour effectivement cet arrêt de la consommation, et que de lui dire qu'il faut vraiment perdurer, enfin qu'il faut maintenir cet arrêt, et que plus le temps va passer, hein, on dit que s'il y a 4 semaines d'arrêt, on n'augmente pas 80% les chances de succès.
Eh bien, conclusion excellente, Bahir. Merci beaucoup de cet appel du Mali. On vous encourage donc à continuer. Merci à vous autour de cette table, docteur Nicolas Bonnet, pharmacien spécialisé en santé publique. Antoine Deutsch, responsable projet au sein du département prévention, direction de la santé publique à l'Institut national du cancer. Merci d'avoir participé à cette émission. Bonjour docteur Catherine Solano.
Bonjour Caroline.
Vous êtes sexologue. Aujourd'hui, on va parler des problèmes sexuels et justement dire à nos auditeurs qu'en cas de problème, justement, eh bien, pas forcément besoin d'un sexologue.
Non, parce que c'est vrai que ce que je voulais dire, c'est qu'un médecin généraliste peut déjà beaucoup aider des personnes qui ont un problème sexuel. Alors bien sûr, il n'est pas spécialisé en sexologie, mais il peut souvent déjà beaucoup aider.
Alors justement, qu'est-ce qu'il peut faire?
Déjà, il peut vous écouter. Et donc vous soulager, ça peut paraître très peu, mais c'est très important, parce que moi je vois beaucoup de patients qui me disent « il n'y a qu'à vous que je peux raconter ça ». Et donc il y a des choses qu'on ne peut pas raconter à sa famille ou à ses amis. Et donc quand vous retournez votre problème dans votre tête sur le plan de la sexualité, ben ça va rien changer. Vous pouvez parfois en parler en couple, mais certainement pas à votre entourage, parce que c'est intime et vous avez raison de pas en parler. Donc ça permet déjà de faire baisser l'angoisse et d'avoir quelqu'un qui a une vision extérieure qui sera plus objective.
Alors il y a l'écoute, mais pas seulement l'écoute.
Non, bien sûr, le médecin généraliste, ben, il va vous écouter, mais il peut aussi vous rassurer. Je prends un exemple, un homme qui vous dit « moi j'ai 50 ans et depuis quelque temps j'ai du mal à avoir une deuxième érection quand j'ai déjà eu une éjaculation ». Eh bien le médecin, il sait que c'est normal, il va vous expliquer qu'au fil du temps, il faut plus de temps pour avoir une deuxième érection quand on a un rapport sexuel, que l'orgasme met plus de temps à venir, que c'est un phénomène normal et donc qu'il faut faire avec. Et donc le médecin peut déjà rassurer parce qu'il connaît quand même le fonctionnement du corps.
Écouter, rassurer et aussi pour ce généraliste, expliquer.
Voilà, évidemment, il peut aussi donner des explications. Soit il peut dire simplement « je comprends que vous ayez un problème, mais ne vous en faites pas, ça va passer. Par exemple, vous avez accouché, c'est normal d'avoir tel problème. Vous avez été opéré de la prostate, c'est normal. Dire quand ça va s'arranger. » Et puis, bien sûr, les amis peuvent vous dire, t'en fais pas, ça va s'arranger. Mais quand c'est un médecin, vous vous dites, bon, j'ai plus tendance à le croire parce qu'il est peut-être un peu plus au courant.
Son discours a davantage de prise. Et puis, il y a bien sûr le rôle purement médical.
Voilà. Et donc, si vous voyez un médecin généraliste pour un problème sexuel, il peut aussi vous faire un bilan médical. Parce que je prends l'exemple d'un homme de 50 ans qui a des difficultés d'érection, eh bien on va lui faire un bilan pour détecter par exemple éventuellement un diabète, faire un bilan cardiovasculaire, et puis un médecin généraliste, il a beaucoup l'habitude de dépister des problèmes psychologiques. Ça peut être une dépression qui joue beaucoup sur la sexualité, de l'anxiété, une phobie, un vaginisme par exemple qui est la peur qu'a une femme de la pénétration, donc il peut déjà beaucoup vous aider.
Et puis même, dans certains cas, le généraliste peut détecter certaines anomalies.
Exactement, parce que le médecin généraliste, il est habitué à examiner ses patients, et donc il peut examiner la prostate d'un homme, il peut examiner l'hymen d'une jeune femme, par exemple, pour voir s'il est trop épais et si ses douleurs sont liées à ça, ou si tout est normal et que c'est plutôt lié à la peur. Donc, il peut vraiment, avec cet examen, vous faire avancer dans votre problème.
Et dans certains cas, même procéder à un dépistage, en particulier pour les hommes.
Voilà, il peut faire du dépistage pour les hommes, et puis ensuite, il peut prescrire des médicaments. Par exemple, maintenant, on a des médicaments pour l'érection qui sont très efficaces. Eh ben, il n'y a pas besoin d'un sexologue pour prescrire ça. Heureusement, les médecins généralistes peuvent prescrire ça. Ils peuvent aussi prescrire un médicament contre l'éjaculation précoce. Ils peuvent prescrire les bons lubrifiants pour une femme qui a des difficultés. Donc, ça fait beaucoup de choses déjà.
Et vérifier, dans certains cas, hein, si certains médicaments sont nocifs pour la sexualité.
Oui, parce qu'il y a beaucoup de médicaments qui ont des effets indésirables dans le domaine de la sexualité. Par exemple, des antihypertenseurs, les antidépresseurs, certaines pilules contraceptives, etc. Et donc, le médecin, soit il le sait, soit il ne le sait pas forcément parce qu'on ne connaît pas tout le dictionnaire des médicaments par cœur, mais il sait aller trouver l'information et vous la donner.
Alors là, on voit le rôle du généraliste, même si, hein, c'est la conclusion, parfois, il faut quand même faire appel à un spécialiste.
Voilà, parfois, il faut faire appel à un spécialiste, mais même dans ces cas-là, c'est bien de voir un généraliste, parce qu'en général, un médecin généraliste, il saura à qui vous adresser. Par exemple, il va se dire, moi, ce problème-là, je vois ce que c'est, je vais vous envoyer voir un urologue, un gynécologue, un sexologue éventuellement, et donc, il connaît les personnes bien qui peuvent vous aider, ou un psychologue, par exemple.
Merci beaucoup, docteur Catherine Solano. Sexologue pour toutes ces précisions. Priorité Santé touche à sa fin. Demain, nous parlerons de l'endométriose. Si vous voulez témoigner, poser une question, notre numéro, c'est le 33 80 82 75 75. À demain.
C'était Priorité Santé avec Sono Assurance qui vous recommande d'avoir une épargne sécurisée pour assurer vos projets en toutes circonstances. Sono Assurance, notre métier, l'assurance.